Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. C'est aujourd'hui la nouvelle année berbère, Yenayer de 1973, Yenayer qui désigne le premier mois et le premier jour de l'an du calendrier agraire nord-africain. Nous y reviendrons avec le journaliste et écrivain Adeline Mehdi. Emmanuel Macron espère accueillir son homologue algérien en France. Cette année, il en a fait part dans un entretien accordé au Point. Le deuxième jour des élections législatives en Tunisie est fixé au 29 janvier prochain, une annonce de l'instance supérieure indépendante des élections. L'armée israélienne a tué jeudi un Palestinien en Cisjordanie occupée. C'est arrivé lors d'une incursion militaire dans le camp de réfugiés de Calandia. Regard dans votre journal sur le développement économique en Afrique et sur la coopération entre la France et le continent africain. Nous écouterons Denis Deschamps, délégué général de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. La célébration ce jeudi du nouvel an berbère, Yenayer de 1973, un événement important pour l'ensemble des populations berbères de l'Afrique du Nord et du Sahel. Entretien avec le journaliste et écrivain Adeline Mehdi.
C'est une fête nord-africaine. Cette fête correspond au début de l'année agraire en Afrique du Nord depuis des centaines d'années et qui est calquée sur le calendrier julien et non pas le calendrier grégorien. C'est pour ça que on l'a fête entre 12 et 14 jours après le début de l'année. C'est une fête traditionnelle agraire parce qu'elle marque le passage vers la fin des moissons et le début des semences. Et donc, nos aïeux l'ont fêté pour augurer une bonne moisson et appeler la nature à être moins hostile envers leurs travaux agricoles.
Et c'est une fête qui, aujourd'hui, est célébrée dans le monde entier.
Chez tous les berbères, un peu partout, quand on dit berbère, ça va de l'oasis de Siwa en Égypte jusqu'au Canaries, en plus de toutes les différentes communautés maghrébines ou autres qui sont ailleurs. C'est des célébrations qui sont autour de valeurs très simples, c'est-à-dire c'est le partage, c'est les rencontres entre les familles et surtout des pensées aux ceux qui sont plus là ou aux malades. C'est aussi une fête de la solidarité, ça il faut bien le souligner, notamment dans les régions rurales.
À l'occasion de Yenayer, est-ce que vous pouvez nous faire part de l'origine du peuple berbère?
Alors c'est une histoire qui est très compliquée parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de théories autour du peuple berbère, si on peut appeler ça un peuple. C'est plutôt des populations brassées qui sont à peu près localisées en Afrique du Nord et même jusqu'aux limites du Sahel, si on pense aux Touaregs, par exemple. Mais c'est une histoire très très longue et qui s'étend sur une très grande superficie de l'Afrique du Nord et qui a eu des interactions depuis très très longtemps parce qu'on trouve des traces des peuples libyques qui sont devenus après les peuples berbères, notamment dans les écrits des Égyptiens, chez les Grecs, bien sûr après avec les Carthage qui est installé ici avec les Phéniciens. Donc c'est des populations qui ont toujours une présence très importante dans le bassin sud de la Méditerranée surtout.
Quelles sont les avancées au cours des dernières décennies liées à la reconnaissance des berbères en Algérie?
Il y a deux étapes très importantes pour la reconnaissance de la matrice berbère et la matrice amazigh de la société algérienne. C'est d'abord en 2006, avec l'officialisation de la langue amazigh dans la Constitution, aux côtés de l'arabe, elle devient langue officielle. Ça, c'est une avancée majeure et qui est le fruit de décennies et décennies de lutte et de militantisme et de combat des acteurs sociaux et culturels en Algérie et ailleurs. Les autres étapes, c'est l'instauration d'une académie de la langue et de la culture berbère. C'est surtout l'introduction de la langue amazigh dans le système scolaire Algérie, qui est une étape très importante. Et symboliquement, depuis 2018, Yenayer est une journée chômée et payée. Donc, c'est une reconnaissance officielle de cette journée-là, du Nouvel An berbère. Et c'est une reconnaissance presque totale. Il reste encore des étapes à fournir, bien sûr, mais c'est une reconnaissance très importante de la dimension berbère de l'identité algérienne.
Et il reste aujourd'hui des revendications importantes?
Écoutez, ce qui reste aujourd'hui, c'est tout ce qui est englobé dans le chantier académique. Ça, c'est très important. Arriver à une écriture unifiée du berbère, parce que le berbère est très varié de l'est au sud, au centre, à l'ouest de l'Algérie. Il faut renforcer aussi la formation des enseignants, populariser plus l'enseignement du berbère, encourager l'édition et les produits audiovisuels en Amazigh aussi. Donc il reste beaucoup de chantiers culturels et académiques qui avancent petit à petit. On n'est pas dans la négation et l'hostilité du régime FLN comme il l'était dans les années 60, 70 et jusqu'aux années 80 carrément.
Et quelles sont les principales personnalités qui ont fait avancer la cause berbère au XXe siècle ?
Alors, c'est des personnalités aussi bien algériennes que maghrébines. Je pense beaucoup à l'anthropologue et écrivain Mouloud Mamri, un professeur émérite qui a beaucoup travaillé sur identifier la culture berbère comme matrice civilisationnelle, comme langue à part entière. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ce combat-là.
Mouloud Mamri, dont l'université de Tizi Ouzou porte le nom.
Exactement. Exactement.
Une période particulièrement importante dans l'histoire de l'Algérie, c'est le printemps berbère d'avril 1980.
Oui, bien sûr, et qui d'ailleurs a été provoqué lorsque le système de l'époque avait interdit une conférence justement de Mouloud Mamri à l'université, ce qui était un signe de l'hostilité du régime FLN contre ce qu'il appelait lui le berbérisme, c'est-à-dire une sorte de séparatisme de la doxa arabo-musulmane de l'Algérie. Et donc cette interdiction-là a créé une onde de choc, pas seulement en Kabylie, mais ailleurs. Il y a eu certes des émeutes, mais il y a eu aussi une prise de conscience chez beaucoup de militants que le combat pour cette identité, cette partie de l'identité algérienne, est très importante. Et c'est un combat qui, par ailleurs, s'est couplé à d'autres combats démocratiques sur les droits de l'homme, sur les droits de la femme, les syndicats, etc. Ça a été aussi une sorte de matrice réformatrice et révolutionnaire qui a accompagné toutes les années 80.
Est-ce que le Irak en Algérie a eu une influence sur les demandes des berbères ?
Je ne crois pas qu'il a eu des influences sur les demandes de berbères, mais il y a eu une réactualisation de l'attachement à la pluralité des identités algériennes. Parce que je rappelle que lors des manifestations, il y avait même des gens qui portaient des habits de guerriers numides, de l'Antiquité. Il y avait beaucoup de rappels de cette identité. C'était quelque chose qui ne concernait pas seulement que la Kabylie. Ça, c'était très important aussi que la question amazigh, la question berbère, soit une question nationale. Et ça, le Hirak l'a bien démontré et a fait capoter toutes les tentatives de séparation entre Algériens.
Comment Yenayer est-il célébré dans les familles ?
Alors en fait, il commence la veille de Yenayer, le Imensi Niyener, c'est le dîner de Yenayer, donc c'est le grand dîner avec des grandes tablées, c'est l'occasion de se réunir en famille, de voir ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est la fête des petits aussi, parce que comme on essaie d'augurer la bonne année, donc il y a beaucoup de sucreries, de bonbons pour les petits, avec une des festins incroyables et des plats traditionnels. Et chaque région a sa propre spécialité. On a le couscous, la chachoucha, le tridi, toutes ces pâtes là, c'est ce moule. Et dans d'autres régions, il y a aussi, par exemple, il y a des traditions spécifiques. Par exemple, à Tlemcen, il y a un défilé de gens masqués pour raconter de vieilles légendes. En Kabylie, on a aussi la préparation de Yenayer lui-même, c'est-à-dire faire des grands nettoyages dans les villages, repeindre, faire des réunions, aller voir les malades, rendre visite aux malades plutôt. Donc il y a plusieurs manières de le fêter et se fête de plus en plus et se normalise aussi du point de vue, on va dire, commercial, entre guillemets, parce que même les supermarchés, les commerçants s'y mettent aussi, ils font des produits spéciaux. Il y a les hôtels et les restaurants qui proposent aussi des formules. C'est une sorte de réveillon du premier de l'an avec toutes les caractéristiques festives du réveillon, finalement.
Et vous l'avez souligné, hein, qui est célébré en Algérie, au Maroc et dans tous les pays dans lesquels les berbères sont en nombre important.
Exactement.
Le journaliste et écrivain Adlène Mehdi. J'espère que le président Tebboune pourra venir en 2023 en France. Des mots du président français dans un entretien accordé au Point. Emmanuel Macron souhaite poursuivre un travail d'amitié après la visite qu'il a effectuée en août dernier en Algérie. Le chef de l'État français a notamment été interrogé sur la possibilité d'une cérémonie de recueillement du président algérien sur les sépultures des membres de la suite d'Abdelkader, héros de la résistance à la colonisation française enterré à Amboise. Il a estimé que ce serait un très beau et très fort moment et qu'il le souhaitait. Le deuxième tour des élections législatives en Tunisie est fixé au 29 janvier prochain. Une annonce de l'instance supérieure indépendante des élections. La campagne électorale a été fixée entre le 16 et le 27 janvier et le silence électoral sera observé le 28 janvier. Le premier tour, le 17 décembre, avait été marqué par un faible taux de participation. Il était de 11,22%. L'armée israélienne a tué un Palestinien ce matin en Cisjordanie occupée. C'est arrivé lors d'une incursion militaire dans le camp de réfugiés de Qalandia, au nord de Jérusalem. L'homme âgé de 41 ans est mort après qu'une balle a traversé sa poitrine. C'est ce qu'indique le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne a indiqué de son côté avoir mené une opération dans ce camp, durant laquelle elle affirme que des suspects ont jeté des pierres et des pavés depuis des toits en direction des soldats. L'organisation terroriste État islamique revendique l'attentat suicide perpétré hier devant l'entrée du ministère afghan des Affaires étrangères à Kaboul. Attentat qui a fait 5 morts et des dizaines de blessés. Regard sur le développement économique en Afrique et sur la coopération entre la France et le continent africain. Entretien avec Denis Deschamps, délégué général de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il a participé lundi dernier à un colloque en partenariat avec Radio-Orient et la revue politique et parlementaire sur les relations entre l'Union européenne, la France et l'Afrique. Denis Deschamps.
Notre conviction, c'est que le développement économique de l'Afrique passe par le secteur privé et par les entreprises. Nous pensons que plutôt que de poursuivre sur une logique d'aide publique au développement, qu'il faut investir et investir en faveur du secteur privé pour que le secteur privé puisse appuyer plus qu'aujourd'hui, qui ne le fait, le développement économique, et favoriser aussi ces partenariats que nous appelons tous de nos voeux pour que les gens soient au même niveau. C'est-à-dire que l'idée, c'est à travers les actions des organisations internationales que nous représentons, que les entreprises puissent se mettre à niveau et puissent se développer des partenariats équilibrés avec des entreprises francophones, européennes, canadiennes ou autres.
Sur les liens, la coopération entre la France, l'Europe et le continent africain, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre regard sur cette coopération, notamment entre la France et le continent africain via le secteur privé ?
Le problème aujourd'hui de la coopération entre la France et l'Afrique, c'est qu'elle est, focalisée autour des interventions d'une structure qui est l'Agence française de développement, et que cette Agence française de développement, soutient plus les organisations civiles qui interviennent sur les questions d'humanitaire et d'urgence plutôt que sur le champ du développement économique. Nous, je rappelle que nous soutenons le développement économique à travers le secteur privé, à travers les entreprises et à travers aussi les réponses aux besoins des entreprises. Et je pense en particulier aux besoins en compétences des entreprises. Et donc nous engageons par exemple et nous développons par exemple un programme de formation professionnelle et entrepreneuriale en lien avec nos partenaires européens, dans 12 pays du Sahel et du lac Tchad, sur un montant de 15 millions d'euros à travers 20 projets qui permettent de développer des dispositifs de formation professionnelle et entrepreneuriale. Parce que, en fait, il y a deux défis majeurs de l'Afrique aujourd'hui. C'est le premier défi, c'est la jeunesse. En 2050, 25%, 50% de la population africaine aura moins de 25 ans. Et deuxième défi, on parle des GAFAM et autres, enfin, c'est l'agriculture. Ce qu'il faut, c'est nourrir ces gens et faut qu'une activité d'agriculture soit productive, efficace, sachant que 65% des terres qui ont un potentiel arable se trouvent en Afrique.
Et ces défis, ils sont suffisamment compris aujourd'hui?
Alors, ils sont perçus. C'est des défis qui sont perçus. Je pense que les politiques européennes aujourd'hui, la Commission européenne, qui, bien sûr, ont des grandes transversales qui sont la transformation numérique, la transition écologique, Mais il y a derrière cela une préoccupation fondamentale, c'est l'arrivée d'ici 2050 de 450 millions de jeunes sur le marché du travail, avec un marché du travail africain qui sera incapable de les absorber. Si ces 450 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail d'ici 2050 ne sont pas absorbés par ce marché du travail où ces 450 millions de jeunes ne créent pas leurs propres entreprises et entraînent un développement endogène, on peut craindre que ces jeunes aient la tentation de traverser la Méditerranée. Avec toutes les conséquences que l'on sait. Mais je pense que la Commission européenne est particulièrement consciente de ce sujet. En France, le sujet est plus délicat parce que nous rentrons dans les termes de diplomatie plus que d'économie. Et malheureusement, les diplomates n'ont pas nécessairement la voix au chapitre aujourd'hui. Et l'économie n'est pas la première préoccupation de nos dirigeants africains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, l'Afrique représente une part infime du commerce extérieur français qui est tournée largement vers l'Europe, vers l'Allemagne et autres partenaires comme ça.
Denis Deschamps, délégué général de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Les syndicats appellent à faire front commun contre la réforme des retraites avec des grèves et des manifestations le jeudi 19 janvier prochain. Le premier syndicat de la branche pétrole a appelé à plusieurs jours de grève en janvier ce mois-ci et le mois prochain. Un appel qui fait craindre des difficultés d'approvisionnement en carburant comme celles connues lors d'un précédent mouvement social en septembre dernier. L'hôpital, la grève illimitée a débuté mardi dernier, tandis que ce vendredi, la RATP se mobilisera en marge des négociations annuelles obligatoires. L'éducation nationale devrait rejoindre le mouvement le 17 janvier prochain. En réponse à ces différents appels, la première ministre, Elisabeth Borne, appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français. Vous êtes bien sûr Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française, puis à 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, bientôt 12h17.